Azin Tonic sur les ondes de CIBL 101.5 avec Hélène Buguin.
Bienvenue sur les ondes de CIBL 101.5. Vous écoutez l'émission Zin Tonic. Le soleil shine fort sur le centre-ville de Montréal et on a un beau programme pour vous ce soir. Parlez-moi d'un duo gagnant. Et donc, on reçoit au micro le fondateur et éditeur de la maison d'édition Fontaine, Anthony Lacroix, pour parler de micro-édition, entre autres. Et donc, bonsoir, Anthony.
Salut, Hélène. Comment ça va?
Ça va bien, puis toi?
Ça va très bien.
Yes, mêleux. Et puis, c'est ça pour les gens qui seraient plus ou moins familiers, là, pour une petite entrée en matière. Fontaine, un peu, comment est-ce que tu la décrirais comme institution, comme projet?
C'est une bonne question. Fontaine, en 2024, on fête nos 10 ans. Le premier recueil de poésie de la collection 2011, notre collection principale, est sorti en juin 2014. C'était Pour trouver le beau de Oli Lucier. On avait vraiment dans ce temps-là, je parle un peu au passé parce que c'est sûr qu'à travers 10 ans, notre ligne éditoriale, notre façon de faire a un peu changé. Bien sûr, on a rejoint des médias, etc. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais au début, ça se voulait vraiment quelque chose d'un peu punk, d'un peu N-Man. Une création de gang. T'sais, on faisait les parties, on montait les recueils ensemble, on les reliait ensemble du recueil de Lee, par exemple, que c'était comme une sorte d'attache de duo tang qu'on patentait à ce rapport-là. Fait que c'était vraiment comme une volonté d'essayer d'avoir une autre voix en poésie, de faire les choses un peu différemment, puis de faire les choses qui se rapprochaient un peu du livre d'art et du livre objet. C'était vraiment comme notre volonté à la base. Cette volonté-là demeure, mais est moins dans le crafting. Là, on est quand même plus avec des graphistes ou des trucs comme ça. À ce moment-là, comme l'écrou commençait, la Peuplade avait annoncé qu'ils fermaient leur section poésie, ce qui n'était pas tout à fait vrai, c'est juste qu'ils s'y consacraient moins à ce moment-là. Loi de Cravin commençait la distribution, mais je trouvais que le paysage québécois et le paysage d'une poésie qui détenait une certaine forme d'oralité n'était pas très présent dans le champ littéraire, donc j'avais décidé avec des amis de fonder Fontaine.
Oui, puis dans le fond, ça a commencé à Sherbrooke?
Oui, exactement, oui. Ça a commencé à Sherbrooke parce que j'habitais là à ce moment-là. J'étais au bac, j'avais cette volonté-là. J'avais encore l'énergie aussi d'après 2012, de cette implication-là. Au départ, en fait, pour être franc, c'était vraiment dans un but d'autopublication. Je voulais faire un recueil des slams que j'avais fait dans ce moment-là, du concours de sujet par spectacle. Puis, je fréquentais une graphiste qui s'appelle Delphie Côté-Lacroix, en fait, là, qui est assez connue maintenant dans le milieu. Là. Elle vient de sortir le tome 2 de la BD avec la mairesse de Montréal, dont j'oublie le nom parce que je n'habite pas à Montréal.
Valérie Laplante, on la salue.
Oui, voilà, Valérie Laplante. Et c'était vraiment dans une volonté de faire un beau livre ensemble. C'était comme un projet de...
Ouais, de duo.
Ouais, c'était pas un couple, mais tu sais, de relation... intime. Et finalement, ce projet-là a pris vraiment du temps. Ça a pris 2, 3, 4 ans à monter. Et entre-temps, j'ai décidé d'aider d'autres amis à publier. Fait que c'est ça, un peu dans ce mouvement-là de Sherbrooke, mouvement étudiant, poésie un peu de la scène de slam, d'oralité. Là.
Ouais. Donc, ça a commencé en région, puis là, vous êtes encore en région, mais plutôt dans le Bas-Saint-Laurent. Comment est-ce que ça se passe pour toi maintenant dans cette nouvelle région-là?
Déjà, j'avais une idée que je voulais sortir un peu la littérature de l'île de Montréal ou hors des grands centres. Déjà, quand j'étais à Sherbrooke, j'avais cette volonté-là. Déjà, à Sherbrooke, ça m'agaçait qu'on dise les régions de Montréal en parlant de Sherbrooke. T'sais, Sherbrooke est quand même un grand centre, un grand pôle culturel en Estrie.
Ouais.
Et donc, ma réalité, en allant à Rimouski, j'ai déménagé à Rimouski pour la maîtrise, s'est affirmée, en fait. Ça s'est vraiment solidifié chez moi. Et donc, chez moi, dans ma vision de la littérature, mais aussi donc dans la vision de l'édition au sens large. Et c'est sûr que chez Fontaine, on publie, pas exclusivement, mais je dirais à 90% des poètes, soit qui sont nés hors des grands centres, soit habitent hors des grands centres. C'est le pari qu'on a décidé de faire pour essayer de se différencier de toutes les maisons poésies qui pop à travers les dernières années, qui sont très intéressantes, qui ont des très belles démarches. Je pense, mettons, à La Maison en feu, qui est vraiment très cool, mais qui est située à Montréal. Donc, tu sais, ces réalités-là qu'on veut mettre de l'avant. Donc, le fait d'habiter à Rimouski, ça l'a vraiment plus solidifié, cette idée-là. Et alors qu'il y avait encore une certaine forme d'urbanité dans la poésie des poètes de Sherbrooke, là, il y a vraiment plus une réalité plus chanteur, trensa et shotgun dans les recueils qu'on publie présentement.
Ouais. Oui, la bonne vieille école de chainsaw, shout-out à Melançon. c'était un gag, mais bon, oui. ça persiste et ça perdure. Et puis donc, vous êtes aussi allé par collection. Donc, ouais. Par exemple, il y a la collection 20 onces, la collection broche à foin. Est-ce que vous fonctionnez encore par collection ou là, c'est plus vraiment vous tournez vers des voix puis vous avez une collection principale?
On fonctionne encore par collection. On a la collection 20 onces qui est vraiment notre collection principale, qui est un petit peu la collection, pas nécessairement fourre-tout, mais tu sais, comme QR au Cartagnier, par exemple, tu sais, comme la collection plus principale. La collection broche à foin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Là, c'est surtout ça que j'ai amené parce que c'est ce qui se rapproche plus de l'esthétique d'usine. C'était des petits projets avec un plus petit tirage, puis on les vendait surtout dans Exposin ou ces mouvements-là. Maintenant qu'on est distribué par Dimedia, on a comme va falloir qu'on réussisse à se repositionner par rapport à ces projets-là ou les livres-objets qu'on faisait. Je sais qu'on en a déjà parlé à l'émission Zintonic quelques fois, mais le recueil de napkins de Catherine Cormier-Larose, par exemple, qui est un projet que j'aime vraiment beaucoup, qui était vraiment le fun, mais dont les enjeux étaient la distribution. Et ils sont encore plus grands maintenant parce que Dimedia distribuera pas. ce recueil de napkins-là. Et on a une certaine forme de contrat qui m'oblige, tu sais, un peu à gérer avec ces impératifs-là. Mais on a encore la collection Focus qui est basée sur des textes qui sont... l'artiste est à la fois photographe et poète. Donc, un mariage un peu des arts. On avait... Julie Leblond, voyons, je pense. Martin Robitaille, on a Pascal Laprade sur lequel on travaille encore à ce moment-là. On avait Marie-Charlotte Aubin qui, finalement, le projet n'a jamais vu le jour, mais il est encore dans une chambre noire, on pourrait dire. Donc, cette collection existe encore, mais c'est rare. C'est pas nécessairement rare, mais qu'il y a une démarche qui rejoint les deux. Je crois que c'est un peu dans ta démarche à toi, là. Photo et poésie d'une certaine façon. Oui. Je pense que tu as un regard sur le monde de cette façon-là. Oui. Et donc, tu sais que c'est pas nécessairement donné à tout le monde que ce soit au même niveau. T'sais, qu'on ait autant un intérêt pour la photo que pour la poésie. Pour moi, il faut que les deux s'accompagnent vraiment très bien et non soit pas un gadget. Fait qu'on prend vraiment le temps. Oui. Puis on a la collection Pléiade Direct, qui est notre collection de prose. Mais c'est très, très long d'éditer de la prose pour moi. Et donc, j'y vois moins d'intérêt.
Oui, puis dans le fond, comment est-ce que... Mais là, tu as parlé de la collection Broche à foin qui est plus cinesque. Puis comment est-ce que ça se passe pour toi, la démarche d'éditeur, d'accompagner ces gens-là? Est-ce que c'est plus une approche qui est plus institutionnelle comme on voit traditionnellement ou tu laisses plus de liberté aux gens comme on peut voir avec, par exemple, la maison d'édition de Jimmy Beaulieu qui en parlait, là, ouais. Qui est plus... qui peaufine, mais qui laisse comme beaucoup de liberté? Ou est-ce que tu te situes, toi, par rapport à ça?
C'est sûr qu'on publie vraiment souvent des premiers livres dans une maison d'édition, puis j'ai vraiment une volonté que ça reste comme ça dans notre catalogue. C'est sûr que là, on a des auteurs qui commencent à nous revenir, à publier 2-3 recueils ou des gens qui ont déjà une expérience, mais c'est vraiment des premiers livres. Et donc, dans une volonté où, moi, j'appelle ça déterrer le fil d'Ariane. Il y a souvent quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant, mais qui demeure à être déterré. Je suis un éditeur assez difficile. Tous mes auteurs, toutes mes autrices s'entendent pour dire ça, qu'on travaille sur 4, 5, 6 versions, mais je ne suis pas... comment je pourrais dire ça? Je ne travaille pas à leur place. Souvent, mon commentaire préféré, celui que j'aime vraiment faire, c'est bon, mais ce poème-là, tu peux mieux. Puis donner un exemple avec ça, c'est excellent. J'aimerais ça que ce poème-là retrouve ce niveau-là. Puis des fois, ça prend plusieurs lectures pour en arriver à quelque chose que je trouve distillé comme vraiment d'un très bon niveau. Puis je fais pas toujours les mêmes commentaires dès le début, dans la mesure où, tu sais, au début, je vais m'intéresser à comme les répétitions de mots-là. Tu as genre 40 fois le mot « lumière », mettons, en 45 poèmes. Tu sais, tac-tac-tac. Après, on va peut-être s'attaquer au temps de verbe, là, mais tu sais, je vais pas donner tous les commentaires one shot. Par contre, j'ai découvert une nouvelle technique de façon de travailler, une nouvelle façon de travailler, en fait, qui me va bien, mais qui est aussi très longue. En fait, c'est qu'avant, je faisais beaucoup de commentaires dans les marges. Ils m'envoyaient une version, je faisais des commentaires dans les marges, je renvoyais commentaires. Puis je pense que c'est quelque chose qui me restait de mes cours de création à l'université. C'est vraiment comme ça qu'on marche à l'université dans les cours de création.
À qui le dis-tu?
C'est ça. Si on fait des commentaires, là, contrôle, alt, enter. Mais, puis là, j'ai travaillé avec Maxime des éditions de ta mère. Puis lui, c'est la première fois, en fait, qu'on me le faisait aussi. Puis je pense que la Maison en feu, ils font ça maintenant, mais moi, ils ne l'avaient pas fait avec moi. Et donc, j'apprends beaucoup de mon expérience avec d'autres éditeurs. C'est de, on s'assoit. On fait ligne par ligne le poème, puis s'il y a des choses que je comprends pas, je te le demande, tu me l'expliques. Ça évite beaucoup de va-et-vient entre les commentaires, finalement. J'ai refait ça après avec quelques auteurs et autrices, puis au lieu d'envoyer 4 versions d'un commentaire de comme « Ah, c'est pas tout à fait ça, ce que tu... je comprends pas ce que tu veux dire » ou « C'est pas tout à fait juste » ou « C'est pas ton meilleur », 3 fois parce que c'était tout le temps un petit peu à côté, là, c'est comme... Je pense que c'est pas ton meilleur parce que moi, je comprends ça de ton verre. Ah, tu comprends ça, j'avais pas vu ça. OK, puis là, on le retravaille ensemble. Fait que j'aime bien cette façon de travailler-là. Par contre, ça prend du temps, là. C'est une réunion Zoom de 3 heures.
Ah oui.
mais ouais. Fait que c'est encore en amélioration. Puis j'apprends beaucoup, beaucoup des poètes avec qui je travaille, des romanciers, des romancières aussi, mais je travaille plus avec des poètes. Fait que c'est toujours en constante évolution. Que je leur donne beaucoup de liberté, mais on va dire quand même que je suis quelqu'un d'assez, pas directif, mais je fais beaucoup, beaucoup de commentaires.
Oui, puis dans le fond, vos dernières nouveautés, c'est « Je reviendrai pour le Mélilot en fleurs » de Laurie Dinaro, puis « La promesse du pain gris » de Matthew K. Williamson, entre autres, il y en a d'autres aussi. Mm-hmm. Fait, comment ça se passe pour ces nouveautés-là, maintenant que vous êtes avec Dimedia? Qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans vos habitudes, en fait?
Ça a changé au niveau de voir le catalogue vraiment d'avance. J'aimais ça une fois qu'on avait travaillé sur le manuscrit, avant de le mettre en ligne sur notre site web, avant d'en faire un résumé, une quatrième de couverture, par exemple, relire le livre de façon physique, me mettre dans la peau d'un lecteur ou d'une lectrice pour essayer de le comprendre, de le décortiquer, d'avoir plus une sensation. Maintenant, Dimedia, ils nous demandent longtemps d'avance la couverture, ils nous demandent longtemps d'avance la quatrième couverture. Il faut faire le pitch de vente au libraire, pas au libraire, mais au distributeur, au diffuseur, pour qu'ils, eux, le fassent au pitch de libraire. Fait que, tu sais, le représentant Dimedia, par exemple, du Bas-Saint-Laurent, qui est Vincent, on le salue, il est très, très gentil, et je l'aime beaucoup, puis il comprend bien les démarches de Fontaine, sauf que c'est pas nécessairement un grand lecteur de poésie. Donc, il faut que je réussisse. Fait que, tu sais, c'est dur de vendre un recueil de poésie comme on vendrait un roman ou comme je pourrais vendre comme un roman ou c'est ça exactement, c'est le pitch, la cassette de vendre est plus facile. Mais en même temps, je suis arrivé chez Dimedia avec Fontaine en même temps que j'ai commencé moi-même à devenir libraire. Fait que j'ai vu vraiment l'envers de la distribution du livre. Puis ça facilite beaucoup la tâche à mesure où là, j'ai pu aller au bureau de poste comme 4 fois par semaine. C'est comme achète-le en librairie, le livre. Là.
Oui, comme...
oui. Ça va être beaucoup moins long.
Oui, ça allège la logistique sur un temps, là, ça c'est certain. Là. Puis, oui, sinon, est-ce que tu avais autre chose aussi?
Oui, puis on sort au seuil des mouches à fruits de Bobby Valérie la semaine prochaine. C'est une poète qui est à 3 pistoles. Et ça me permet, moi, d'être à Montréal en ce moment parce que la machine est lancée. Il arrive à la librairie la semaine prochaine. J'ai pu à recevoir les boîtes, à travailler tout ça. Maintenant, c'est eux qui s'occupent des livraisons dans les librairies. Puis le système des consignes est vraiment intéressant. On en a parlé beaucoup à Ziptonic aussi. C'est le système des consignes pour les zines, c'est comme la seule porte d'entrée de distribution. Sauf que chaque librairie a son formulaire de consigne différent, son temps de consigne. Moi, c'est 6 mois, moi, c'est 1 an. Port de tête, je t'achète ton zine tout de suite. Moi, je ne suis pas bon en comptabilité. Là. Le suivi était vraiment plus difficile. Là.
Ça prend des bons tableaux Excel. Là, puis,
Oui, mais là, Excel, déjà, tu me brises le cœur.
Non, c'est ça. Moi, c'est ça, Excel, c'est toujours une relation d'amour-reine. Puis, sinon, est-ce que vous avez vraiment encore cette volonté de rester dans l'underground puis d'être dans les premières voies, comme tu disais? Là, c'est vraiment, ça continue d'être dans votre démarche? Là?
C'est vraiment encore dans notre démarche. C'est vraiment dans notre volonté. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on attire, pas nécessairement malgré nous, Mais je trouve ça intéressant de voir. On a déjà publié Annie Landreville, on a publié Catherine Cormier-Larose, qui sont des poétesses très connues dans le milieu littéraire, mais qui font quelque chose de différent chez nous. Ils utilisent comme ce réseau-là du livre-objet. Et c'est quelque chose qui me plaît. T'sais, quand les gens viennent chez Fontaine, c'est un projet clair ou c'est une volonté plus punk qu'autre chose. Je me compare beaucoup quand même à Fontaine, mais c'était mes maîtres à penser, mais à Loi de Cravant puis à Rodrigol, tu sais, dans notre esthétique puis dans notre volonté de faire les choses, sont vraiment très proches de ces deux maisons d'édition-là, sauf qu'on est en région éloignée.
Mais c'est bon, ça. Mais c'est parfait. Je pense que ça conclut très bien cette première partie de l'émission avec Anthony Lacroix de chez Fontaine. Et donc, restez des nôtres. On va à la petite pause musicale. On va écouter Air de glace de Daniel Bélanger. Oui, exactement. Daniel Bélanger. Pourquoi je me trompe là-dessus? Puis, au retour, on va continuer de parler de zine et peut-être que je demanderai à Anthony la définition du zine. Oui. Restez des nôtres.
Ça vient chercher le pire de moi. Je n'ai plus d'empathie ni plus de patience. Je me replie, on se protège comme on peut de la ligne de feu. Ça n'excuse en rien les gestes furieux. Je me dis, et quand mon cœur ne trouvera plus rien de drôle, il sera l'air glace à lui seul. Il sera l'air glace à lui seul. Rien ne sait plus raisonner, rien ne trouve plus écho. En moi tout se ferme à double tour. Je me dis, et quand mon cœur ne pourra plus jamais donner, il sera l'air de la salle. We'll be right back.
Vous écoutez CBL 101.5, l'émission Zine Tonic. On parle d'impression de papier de notre stylo préféré avec Anthony Lacroix. Et juste avant la petite pause musicale, on parlait de la maison d'édition Fontaine, c'est ça? C'est bien une maison d'édition en bonne et due forme. Et c'est ça, des auteurs et autrices qu'elles ont publié. Et donc, ben, peut-être pour cette deuxième partie-là, justement, maintenant que je l'ai un petit peu teasé avant, le début de la pause, mais c'est ça pour, avec toute cette perspective-là, puis tout le knowledge que tu as ramassé avec le temps, comment est-ce que tu définirais le zine, en fait? Puis comment est-ce que tu te positionnes face aux zines maintenant?
C'est une très bonne question. C'est une question que tu poses à tous les invités et qui, à chaque fois, les réponses sont super intéressantes. C'est sûr que le zine a comme une forme d'historicité qui est plus nécessairement la même, surtout dans le Canada anglais ou même aux États-Unis. J'ai lu beaucoup d'essais sur le zine, sur la fondation du zine l'année dernière quand je montais mon cours. Tu avais l'invité aussi, mais l'histoire du zine à Montréal, c'était son mémoire de maîtrise.
Oui, Isabeau.
C'était super intéressant, mais c'est sûr qu'on a moins cette vibe plus Comic-Con, là. T'es comme de fan art de ce rapport-là. Moi, je suis moins là. Je vois quelque chose de punk, quelque chose que tu peux faire, mais il y a plus de liberté dans la reliure, dans la façon de présenter le livre que sur un livre qui est justement distribué par un distributeur, que ce soit à Socadis, à DP, Dimedia, peu importe. Moi, je vois le zine comme quelque chose qui est dur à distribuer en librairie. Tu vois une boîte de Dimedia remplie de zine, ça serait compliqué de le mettre sur une tablette. Fait que, moi, je trouve que cette zine-là, ce rapport-là un peu punk, qui peut être très intéressant, et que dans sa constitution, et donc broche à foin est ce qui se rapproche du zine, mais n'en est pas. Parce que qu'est-ce qui va se rapprocher du zine, c'est que dans sa constitution, 80% mettons, va être fait par l'artiste ou en collaboration avec un autre artiste s'il est poche de ses mains. Mais c'est pas relié. Il ne paye pas un graphiste pour le faire suite à l'imprimeur, relieur, etc. etc. Il y a une part de fait soi-même, quant à moi. Dans un livre, il y a une part de fait soi-même. Bien sûr, on écrit ses livres, mais on s'implique moins dans le processus de création du livre, mis à part accepter des épreuves ou conseiller l'illustration, dans la faisabilité de la patente. À mes yeux, c'est un peu ça. Bon, après, il y a des exceptions. Tu sais, comme j'adore le travail des... Je pense que c'est une maison d'édition colosse, là.
Oui, bien, c'est ça. C'est la salle de Jimmy que j'ai nommée, justement. Parce que c'est ça, dans l'émission, quand il est venu, il parlait de, justement, c'est une maison d'édition, mais il encadre plus, il donne les moyens aux gens de produire. Tu sais, il trouve des trucs intéressants. Puis il est comme, tu sais, I got the means of production. Fait que je peux te l'offrir. Fait que c'est ça, mais il y en a que... Ben c'est ça, c'est particulier parce que zine, ça rime pas nécessairement avec maison d'édition. Fait que c'est drôle, pas drôle, pas dans le sens étrange ou comique, mais plus de fascinant, en fait, de voir que, tu sais, il y a des zines qui peuvent être dans des maisons d'édition. Mais après ça, est-ce que le zine, c'est toujours hors institution? Est-ce qu'il peut y avoir des institutions dans le zine? Est-ce que c'est en train de se développer? Est-ce que même, il n'y a jamais personne qui en a parlé, mais est-ce que ça se gentrifie? Ou au contraire, on influence l'édition traditionnelle? Fait que c'est toutes ces affaires-là. Je pense pas que ça gentrifie, je dis ça de même, mais là, ça m'a popé dans la tête que peut-être que non, mais... Ou alors, c'est inhéremment, en tout cas, c'est des questions... Je te pitche plein de questions, est-ce que c'est tellement inhéremment punk que ça ne pourra jamais être gentrifié parce que tout le monde est bienvenu, tu sais? Il y a comme toutes ces questions-là que c'est intéressant, parce que dans une maison d'édition, justement, tu sais, comme dans l'offre, est-ce que ça reste punk ou est-ce que ça devient une institution, tu sais?
Mais je pense que ça peut rester punk encore là, Colosse, Rodrigol. Rodrigol ont quelque chose de l'esthétique d'usine. Je suis pas d'accord de dire qu'ils font... ça dépend des projets. Là. Encore là, on est à projet pour projet, mais dans l'ensemble, mettons, le string de Marie-Paul Grimaldi, je le rentre dans l'usine, mais son recueil de poésie, non. Là. C'est pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne le savent pas, à la sortie du premier livre de Marie-Paul Grimaldi chez Rodrigol, il y avait cette volonté-là très punk, puis il y avait un verre qui, je pense que c'est ce mince tissu qui me traverse ou quelque chose du genre qui n'arrivait pas à placer dans le recueil. Fait qu'on dit on en fait des strings, puis ils l'ont fait, avec le verre, tu sais. Puis moi, ça, le recueil est dans ma bibliothèque, mais le string est dans ma boîte de zine. C'est comme dans mon archivage chez nous, là. Fait que, mais est-ce que le. Mais après, la plus grosse question, c'est est-ce que le punk peut se gentrifier, tu sais?
Ouais.
Il y a des gens que oui, là, tu sais. Il y a des gens qui utilisent les symboles punk, comme le A en X. Tu sais, j'ai vu le shaker le réutiliser comme symbole pour ses logos, là, tu sais.
Je veux dire. Ouais.
Est-ce qu'ils le savent que ça vient d'une esthétique punk anciennement? Je sais pas. Sûrement que la graphiste ou le graphiste qui a fait le truc, peut-être un peu. Fait. Je pense que le punk peut se gentrifier. Là.
Ouais.
Et donc, le zine pourrait se gentrifier.
Ouais, ben, tu sais, c'est mais... ça. Ou est-ce que ça influence l'édition traditionnelle? Ouais. Est-ce que c'est
mais ça,
c'est...
influence grandement l'influence traditionnelle. Je pense que... après, ça dépend comment on nomme ce qui est fait. Mais tu sais, ben, je pense aux Cartagniers qui, avec le dernier livre de David Leduc, ils ont fait un genre de petit truc à côté.
Ouais.
Genre de faire part. Mathieu Arsenault, tu sais, c'était des textes aussi un petit peu à part. Je pense à Hector Ruiz et Dominique...
Marcel.
Marcel, qui ils sortent leur recueil, mais ils font un petit zine en complémentarité de leur recueil. Fait...
Les sous-verts, là.
Oui, c'est ça, exact.
La taverne nationale, là. Oui, oui.
Ouais. Puis elle fait une genre de boule, eyeball, pour voir son avenir aussi avec le dernier, un dernier projet, je ne me rappelle plus trop quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que, tu sais, c'est comme. Fait que ça influence leur lancement, l'esthétique, mais tu sais, aussi des gens qui sont très proches d'une littérature un peu plus punk, un peu indépendante, là, surtout dans Taverne Nationale, par exemple, mais qui est publiée chez Triptych, là, tu sais, je veux dire. Fait que. Oui, le zine influence la maison d'édition, puis les maisons d'édition devraient être plus influencées par ce qui se fait en contre-culture, en zine, en mouvement punk, tu sais. Loi de Cravant aussi, en fait, je nomme Rodrigo, mais Loi de Cravant ont une esthétique... on dirait qu'ils vont chercher le meilleur du punk, mais ils rentrent dans une maison d'édition avec un papier, une sérigraphie de grande qualité, un rapport graphique... incroyable, tu sais, la revue Tantôt, est-ce un zine ou pas? Tu sais, comme. c'est comme.
Bon, ça a gagné zine francophone à Exposine, là, mettons, mais c'est ça, ça reste une revue, mais c'est tellement.
Ouais.
C'est ça, c'est tellement littéraire que t'es comme. T'as jamais, en fait, moi, j'avais jamais vu de revue comme ça avant.
Ouais, c'est
de,
ça.
Avec les lettrages médiévaux, là. T'es comment? Bon.
Tu sais, eux, ils ont décidé de prendre cette esthétique-là, mais ça reste une revue qui appartient, je pense, à la loi de Cravant, ou du moins est très enclavée dans la loi de Cravant, comme Zinc est très proche de Marchand de feuilles, tu sais. Mais ils ont quand même leur propre esthétique. Puis la loi de Cravant sont allés vraiment plus vers le zine que Zinc, là, tu sais.
Ouais. Puis j'ai le dernier, l'air fou de Jonas, là, Fortier. Justement, c'est un recueil de poésie, mais l'esthétique, la couverture, là, l'espèce de petite... j'arrive pas à l'écrire, là, je manque de mots, mais le titre, la texture, oui, c'est ça le mot que je cherchais, là, qu'ils ont utilisé. Ça rappelle vraiment, en fait, les papiers qu'on peut retrouver faits à la main dans les zines, là. Fait que c'est vraiment excitant.
Puis, en fait, tu sais, est-ce que... on parlait beaucoup aussi du travail de Sushana Bikini London, voyons son vrai nom, Lucie Depelswan, tu sais, qui est son départ, son zine qui est devenu finalement publié par Isatis aussi. Est-ce que ça cesse d'être un zine une fois que c'est publié par une maison d'édition? T'sais, c'est Maud Veilleux, tu sais, certains des poèmes de L'amour à marde, tu sais, l'amour, oui. Les choses de l'amour à marde étaient un zine à base, tu sais. Est-ce que là, c'est plus un zine?
Oui, c'est ça, mais...
C'est juste la matérialité, donc, parce que le texte n'a pas changé, tu sais.
Ouais.
C'est comme...
La matérialité...
C'est vraiment flou, là, tu sais. C'est comme un diagramme, là, tu sais. C'est comme au centre, le zivre.
Le zivre. Oh my God, est-ce qu'on vient de faire un néologisme? Ça y est. On est rendu là dans l'émission à la 20e quelque émission. On a fait enfin un nouveau terme. C'est ça, ça va bientôt à la pause, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, en fait, sur Fontaine, sur la démarche d'usine avant d'aller à la pause?
On peut aller à la pause. Il y a le rapport aux zines que je trouve ça le fun qu'ils sortent un peu de l'île de Montréal maintenant avec le festival de zines de Saint-Simon. Moi, le zine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup associé à Montréal aussi. Il y en a des ineuses et des ineurs qui sont en dehors de l'île, mais tu sais, quand même, Exposé n'est tellement grand, tellement une reconnaissance. Mm. Bon, il y avait le salon d'usine à Magog, là, ça apporte pas ce titre-là. Mais
oui, c'est ça, j'allais le plugger, en fait. C'est Imazine à Magog, c'est ça, exactement. La même personne qui a fait Imazine à Sherbrooke. Donc, c'est ce dimanche, en fait, 14 avril. C'est ça, cool. Segway vers la plug. Fait que c'est excellent. Fait que oui, mais non, c'est ça, c'est nice que ce soit en région. Puis justement, c'est ça, le zine, ça fait participer des discours qu'on n'a pas nécessairement. Donc, let's go, les gens de région. On fait des zines. OK.
Oui, vraiment.
Et voilà, mais je pense que ça conclut très bien ce premier segment. Et donc, bien sûr, vous le savez, ce n'est pas une surprise. Au retour, on va parler des coups de cœur. Donc, ne nous quittez pas. Ce n'est qu'une courte pause publicitaire. Et on est de retour après.
Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble. De l'actualité, de la culture, des entrevues, Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, boy. Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5.
FM.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
CIBL.
Vous écoutez l'émission Zine Tonic. On est avec Anthony Lacroix de la maison d'édition Fontaine. Et puis, en première partie, bien, on a parlé de l'historique, on a parlé un peu de la mission, puis en fait de la vision du zine. Et donc là, on peut plonger en fait sur les zines qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué. Et bien, je peux te laisser commencer avec le premier titre que tu as choisi.
Oui, ça a été très difficile de choisir. Là, je pense que l'argument qui a fait que j'en ai choisi certains plus que d'autres, c'était tout simplement la place dans ma valise.
Okay.
Fait que j'ai pris ceux qui prenaient un petit peu moins de place puis que je risquais un peu moins d'abîmer. Okay. Mais j'ai amené le livre... le titre de l'autre bord et mon accent anglais. « There Will Be No Miracle Air » de Catherine Cormier-Larose, en fait, qui est un ensemble de photos d'animaux morts. Qu'elle a croisé en voyage.
Baby!
Et c'est assez troublant, mais comme un lapin, par exemple.
Oui, je sais qu'elle nous écoute un petit peu en direct. Donc, mais voilà, Catherine.
Voilà, Catherine, ce recueil que j'avais promis de parler un jour. Et j'avais assisté à un colloque de l'UQAM et je l'avais oublié chez moi. Et je voulais l'amener. Et personne ne comprenait vraiment de ce que je voulais dire. Mais pas Catherine, parce que dit « Hey, peux-tu me ramener ton zine avec des photos, tatata, j'ai oublié chez nous. » Puis elle m'avait amené son autre zine. Mm. C'est comme « Non, c'est lui que je veux. » Elle doit pas en avoir fait tant que ça, parce que ça coûte cher quand même, faire développer des photos, même si c'est des photos comme développées.
Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment des photos qui, en fait, ont été écrites dessus des poèmes.
Oui, des fois, sont écrites directement au Sharpie, le poème. Mais des fois, elle a pris le temps d'écrire un poème et de le mettre à côté de l'animal mort avant de prendre la photo. Donc, il y a ce rapport-là là, qui... en fait, c'est une démarche qui est très troublante. Puis moi, j'aime beaucoup le zine. On peut aller dans le... Ça demande du politically correct, mais on peut quand même aller chercher une émotion ou aller déranger un peu plus que dans une maison d'édition un peu plus consensuelle. En tout cas, à mes yeux. Puis je me souviens que c'était Exposine, puis elle n'avait pas eu le temps de finir, tu sais, cette idée-là. Fait que, tu sais, les poèmes écrits au Sharpie, ils écrivaient live, là. C'était comme, j'ai pas eu le temps. Parce que, tu sais, Catherine Carmela-Rose est souvent très, très occupée dans le temps d'Exposine. Et donc, c'est ça. Fait que c'est le premier recueil que j'ai amené, parce que j'aime aussi beaucoup sa démarche, puis sa vision, puis elle trouve quand même elle trouve toujours comment nous étonner et arriver par l'angle mort d'usine. Là.
Très, très littéralement l'angle mort, oui, c'est le cas de le dire. Puis, ben oui, donc, dans le fond, là, quand les gens ils me demandent souvent, genre, ah, c'est quoi un zine? Puis quand j'essaie de leur dire que c'est par rapport à la forme, c'est comme, c'est exactement ça que je veux dire. T'sais, des photos avec un poème dessus, dans un sac à brun, avec le titre écrit dessus, ben voilà, c'est un zine. Puis c'est ça qui est vraiment fascinant, donc... On fait un petit peu d'ASMR tout le temps.
Oui, c'est ça, studio. Un petit peu, oui. Puis, tu sais, Catherine a vraiment cette idée-là, je crois, de tu sais, dans la communauté zine, c'est important d'avoir, si on a des commentaires sur le zine, d'être rejoint ou, tu sais, d'avoir un échange, d'un dialogue. Puis, tu sais, elle a mis son adresse courriel dessus. C'est exposé en novembre 2015, tu sais, dans un point de vue toujours de... C'est ça, de communauté. C'est sûr que ce n'est pas un zine qu'on trouve dans une bibliothèque publique, une bibliothèque de rue, pardon, dans un rapport comme ça. C'est vraiment fait comme un zine événementiel. J'étais là. Je pense que je n'ai pas demandé de dédicace, j'aurais dû. Dédicacer derrière
c'est pas,
la photo.
Il n'est pas en dessous, là, non?
Ah, peut-être.
Non, je ne sais pas.
Ah oui, pour Anthony.
Voilà, en argenté.
Ben oui. Full pitanks.
Fait qu'on la salue, Catherine Cormier-Larose, qui était venue à l'émission il y a quelques semaines déjà.
J'adore Catherine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue.
Oui.
Le deuxième que j'ai amené, c'est vraiment... des fois, je prends des zines un peu, surtout pour leur côté un peu punk. J'achète des trucs quand je viens à Montréal. Hier, je suis allé au Port de Tête, j'ai fait une rafle, tu sais, des trucs que je ne peux pas trouver dans la librairie dans laquelle je travaille, que je ne peux pas faire venir en distribution. Des fois, c'est pour le format, des fois, c'est pour le projet, des fois, c'est carrément pour le texte. Bon, nécessairement, tu sais, je suis en littérature. Des fois, je prouve que... Le texte, c'est comme « Ah, ça pourrait faire un bon recueil. » Moi aussi, je pense que je cherche un peu comme l'écrou. C'est vraiment un bon zine, on va le publier. comme il donnait un autre vie. Et j'avais lu cet essai-là, je ne la connais pas du tout, de Floriane. Ce que j'aurais voulu savoir avant de prendre des antidépresseurs, c'est un essai, un article scientifique, voire même avec des notes de bas de page, des références sur le fait de les pour et les contre des antidépresseurs, un peu ce qu'on dit dans le monde médical, mais le monde médical qui a moins de paroles, parce que, tu sais, bien nécessairement, en tout cas, pour avoir été à ce moment-là, quand je l'ai acheté, je pense que c'est le même exposine que je l'ai acheté, j'avais des antidépresseurs, puis je n'étais pas tout le temps content de mes 16 mêmes années, des effets secondaires. Et, mais tu sais, c'est comme le médecin, c'est au vendeur de pilules qui parle le plus fort, médecin va vendre ces pilules-là. Fait que tu sais, c'est un peu... le travail de recherche est vraiment incroyable. Le texte est vraiment touchant aussi. Ça part un peu d'un essai personnel, d'une expérience personnelle. Fait que j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là qui est en reliure japonaise, mais avec un petit fil... Tu fais l'argenté de bracelet.
Mais oui. Puis c'est comme un petit papier bleu, puis plus sur l'horizontale. Fait que c'est vraiment un truc comme tu peux consulter avec une belle esthétique quand même. Là.
Oui, vraiment. J'ai amené plein de choses. Je ne sais pas si on peut les rentrer dans cette catégorie-là, mais je les ai amenés un peu pour la boutade qui, au départ, Pau Pau, ben, était très présent à Exposine. Je ne sais pas s'ils sont encore à Exposine.
Un peu moins.
un peu moins. Les éditions de ta mère aussi, je pense qu'ils vont moins exposer. Mais tu sais, au départ, ils allaient beaucoup, puis ils profitaient de exposer. Bon, ils vendaient leur bande dessinée par rapport, mais ils vendaient aussi, ou ils donnaient, dépendamment de si tu achetais une BD ou pas, des petits extraits des projets à venir sous forme de petits recueils brochés. Fait que moi, je le rentre un petit peu dans l'usine, dans ce rapport-là, où tu sais, c'était comme un... C'est un pamphlet publicitaire. On peut, je ne sais pas où le classer, mais tu sais, c'est ça. C'est pas tout à fait encore le livre. C'est vraiment basique. C'est des feuilles pliées, mais qui ressemblent quand même à ce que publie Colosse, tu sais, d'une certaine façon. Fait que ce rapport-là, moi, j'avais beaucoup aimé parce que ça a fait... ça faisait découvrir les projets de Pau-Pau. Puis bon, Pau-Pau, j'adore leur humour et leur esthétique. Puis qui ont une forme assez punk aussi.
Mais ça démocratise, ça rend accessible. Puis en plus, c'est un petit objet de complément qu'on disait tantôt.
Oui.
Multiple purpose dans un petit zine.
Puis ça vient chercher mon côté collectionneur. Là. Moi, je suis vraiment un ramasseur, un collectionneur de patentes. Tu sais, je vais voir un show, je garde le dépliant, je mets tout dans mes affaires, dans mes archives. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, de ce rapport-là. Puis, tu sais, c'est comme le 2 de 4 de petits zines d'extraits, tu sais. En fait, c'est la collection Mignardise qui s'appelle.
Ouais.
Puis c'est comme ça que j'avais connu, tu sais, Yves Fidèle à lui-même, Yves Leroy de la Crosse, puis... ça m'a fait donner le goût d'acheter la BD, finalement, ce que j'ai fait. Fait que si c'est un acte publicitaire, c'est un acte réussi. est-ce un acte de zine réussi? Ça, je ne sais pas.
Non, ça dépend. Ça dépend, c'est certain. Mais donc, oui, pour continuer dans les coups de cœur, là, je vois que tu en as vraiment apporté beaucoup. Là, fait que c'est vraiment très excitant, là, puis de tous les formats. Là.
Oui, c'est ça. J'ai amené plusieurs choses. Je vais parler de Bûcheron, en fait, de Bobby Valéry, justement, qu'on publie au Seuil des Mouches à feu la semaine prochaine chez Fontaine. En fait, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est un zine qu'elle avait fait, qu'elle avait tiré à 55 exemplaires, puis qu'elle avait mis ses tables de la seule et unique microbrasserie de Rimouski. Ben, il y en a deux, il y a l'Octobre, mais on ne peut pas aller boire de la bière, c'est juste la production. Bref, le monde brassicole est une autre histoire. Mais elle avait mis sur des tables, puis j'étais comme... puis c'est ça, dans un acte de collection, je l'ai pris, tu sais, puis je me suis dit... Au pire, c'est pas bon. Au pire, c'est bon. Puis, je trouvais ça vraiment... là, il y avait quelque chose d'unique dans sa parole, quelque chose d'intéressant. Puis, j'ai pas peur, justement, d'écrire à cette personne-là. Tu sais, je l'ai retrouvé sur Instagram. Tu sais, il y a son hashtag, là, Bobby Valéry, Facebook. Puis, une sorte de carte d'affaires. Puis, c'est comme, hey, c'est vraiment bon ce que t'as. Si à un moment donné, t'as un projet plus complet, j'aimerais ça recevoir ça chez Fontaine. Mais, tu sais, pour vrai, aucune obligation. Je trouve juste une parole intéressante qui fit dans notre ligne éditoriale. Puis, quelques mois plus tard, finalement, elle nous a envoyé un manuscrit, puis on a travaillé dessus. Tu sais. Oui. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça, c'est un petit recueil, mais déjà, ses thématiques sont là, son essence est là. On voit un peu. Ce qu'elle veut faire ou sur les terrains qu'elle travaille. Il y a des photos. C'est quand même un beau zine. Là. C'est quand même un zine bien fait. Fait que dans cet aspect-là aussi que je trouve vraiment intéressant. Ça, j'ai amené vraiment toutes sortes de choses. Mais je pense que... puis il y a aussi dans le zine, moi, je... mettons Zivian, là, le zine que j'ai, c'est le son de la pluie de Zivian, mais j'adore Zivian, j'adore tout ce qu'elle fait. Fait que, tu sais, j'achète le moindre petite patente brochée ou, tu sais, si elle sort un zine puis qu'elle est allée en porter au port de tête, je vois sur les réseaux sociaux, j'écris à mes amis de Montréal, va me chercher un zine de Zivian au port de tête, s'il te plaît, passe-moi-le. Tu sais, parce que cet aspect-là, c'est ça, qui vient chercher un peu mon rapport collectionneur, puis finalement, cette histoire-là, le son de la pluie, s'est retrouvée dans un autre de ses BD chez Papa plus tard, mais moi, j'ai l'original et la BD. C'est le même cas que Julie Doucet. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait aussi, ce rapport-là. Et c'est le cas aussi de... Je pense qu'ils ne travaillent plus ensemble. Je pense que c'est comme un band de musique. À un moment donné, ça se sépare. Mais Alexandre Fontaine-Rousseau puis François Samson... Je ne sais pas comment dire. Dulon? Dunlop? Mais... Alexandre Fontaine-Rousseau, il a fait aussi des livres tout seul chez ta mère ou des livres avec Caton. Mais ce duo-là, il avait fait une bande dessinée qui était Poulain Gringrin, puis il avait fait Pinkertown. C'est deux bandes dessinées que j'ai vraiment adorées. Puis j'ai vu par la suite qu'il avait fait, 12 amertumes, qui sont des BD en quatre cases, très cyniques, très ironiques. Il avait fait un autre truc sur la bière qui était vraiment intéressant aussi. J'ai tout acheté de ce duo-là parce que j'adore vraiment ce duo-là, puis je le retrouve, tu sais, ce que j'aime dans leurs livres. C'est comme concentré d'enzymes parce qu'ils peuvent se permettre un peu plus d'irrévérence, tu sais, ou d'essayer des affaires. Des fois, ça tombe un peu à côté. Il y a des blagues sûrement. Pas très drôle, celle-là. Mm. Mais tu sais, puis un zine, ça coûte vraiment pas cher, là. Fait que, tu sais, c'est comme... je sais pas, c'est comme collectionner les rondelles de hockey de ton joueur de hockey préféré, là.
Mais oui.
Tu sais, comme les retailles de quelqu'un, je sais pas.
Mais c'est ça, il y a pas d'utilité absolue, là, si on est dans la logique capitaliste, là. Mm. Tu sais, il y a pas de tu sais, la valeur de revente, c'est vraiment la valeur émotionnelle qu'on lui attribue, mais quand même...
Oui.
Tu sais, c'est précieux d'avoir ça, là. Moi aussi, j'ai des petits artefacts. Mais c'est ça, ça vient des artefacts, ça vient des preuves, où je pense aussi à Artext, là, qui sont venus il n'y a pas longtemps, qui eux, ils collectionnent tout ça, fait que ça fait en sorte que, justement, tu vois la démarche d'un artiste, mais tu vois « started from the bottom ». J'utilise beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, mais c'est ça la vibe, c'est pas grave. Mais que c'est ça, c'est comme « ah, ça complète son work » ou « ah, tu vois d'où est-ce que ça a originé, comment ça a évolué ». Fait que, oui, c'est tout aussi pertinent, là.
Vraiment, tu sais, puis, mais tu sais, j'avoue que je suis comme des fois un petit peu maniaque, tu sais, mettons, Marjane Beauchamp, avant qu'elle publie au Plexus... elle lisait dans une soirée à Sherbrooke, ses feuilles traînaient à terre, elle pitchait, elle était très, très, très performante, pitchait, etc. J'ai ramassé ça, puis j'ai ramené chez nous. Là. C'est comme c'est un rapport-là, là, j'ai comme dans ma bibliothèque, derrière ses recueils, parce que dans un style archivage, j'ai les text Word de Marjane Beauchamp. C'est comme, j'ai vraiment ce rapport-là un peu maniaque, mais qui... Puis des fois, tu sais, comme Julie Delporte, elle avait fait un recueil de zine, avec une institution d'art en Europe, je me rappelle plus quoi, puis j'ai fait venir, puis ça m'a coûté cher en tabarnouche, là, mais j'étais comme « nice ». Mais tu sais, comme 75$, je pense, là, c'était comme plus les frais de poste, là, tu sais, j'étais comme « ouais ».
Il y a des sacrifices qu'on fait. Il y a des sacrifices qu'on fait. Ouais, moi, j'en attends un bientôt, un colis de la Belgique avec des zines dedans. Là, on vous en donne des nouvelles. Là. Mais c'est toujours excitant. Là, tu l'ouvres. Là,
ben oui.
Comme, wow.
Mais au moins, Colosse, maintenant, se sont beaucoup améliorés. En écoutant Zine Tonic, j'étais comme... hey, ça fait longtemps que... ben justement, avec... voyons, j'ai oublié son nom. Je suis vraiment pas bon.
Avec Jimmy ou...
Ouais, avec Jimmy Beaulieu, c'est ça, exactement. Il parlait de Colosse. Comme, ah, ça fait longtemps que je peux aller voir sur leur site. Fait que là, j'étais allé voir le site en écoutant l'émission. Puis là, j'étais comme... bon, je dépensais pas 45$. Je les ai reçus chez nous comme la semaine d'après. Et j'étais vraiment content parce qu'ils ont développé aussi une expertise de mettre des petits cartons pour protéger les zines, ce qui n'était pas le cas avant quand j'étais à Sherbrooke puis que j'ai commandé puis que ma boîte aux lettres était vraiment mini. Là. C'était une enveloppe. Là, le facteur, il pliait ça. J'ai des zines courbées. J'étais un peu... oh, shit! Mais ça fait partie de la patente. Là, mais tu sais, c'est comme... ouais.
Les dangers. C'est ça, les dangers de la distribution, hein?
Oui, c'est ça, exactement.
Puis, on comprend maintenant pourquoi les médias, ils veulent pas trouver des livres.
Oui, parce que c'est de leur faute. S'ils se brisent pendant le transport, c'est eux qui sont responsables. C'est ça. C'est pas la librairie ou c'est le transporteur, mais tu sais... Bastien-toi avec un transporteur, tu vas voir, tu gagnes jamais.
Il faudrait que quelqu'un fasse un zine sur les transporteurs de livres. On en a besoin, là.
Oui. Ah, ça serait vraiment bon. J'ai-tu amené... il y en avait un autre aussi que je voulais vraiment parler. Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Ben, c'est Sushana Bikini London, Salon de l'ésotérisme de Montréal. Là. Je pense que c'est un zine quand même assez connu, que moi, j'aime beaucoup.
Non, ah,
c'est...
même pas. Je ne le connaissais pas, celui-là. Salon de l'ésotérisme de Montréal?
Ah, c'est pas Sushana, celui-là, pardon. J'ai mélangé avec un autre. C'est Guillaume Adjouvard, Provost et Maude Veilleux-V. Ben voilà, c'est ça.
OK, là, oui. Là, je le replace.
Je m'ennuie de ces beaux escabeaux. Là. C'est comme, puis ils sont disparus de la scène, ces beaux escabeaux, un peu après que moi, j'arrive dans Exposing et tout. Fait que mon esprit de collectionneur est vraiment fâché parce que je leur ai écrit. C'est comme, ah, si vous trouvez des copies, j'en veux. Mais non, malheureusement, c'est le seul que j'ai pu trouver. Et maintenant, vieillissant, je pense que je m'en serais acheté deux. Puis celui-là, je ne l'aurais jamais ouvert parce qu'il est fermé par une étiquette. Puis tu sais, il y a des zines comme... mettons, les territoires de Kaalg de Mathieu Arsenault, moi, je ne l'ai pas gratté à la fin. Là. Moi, il est super beau. Le livre de Géraldine, je ne l'ai même pas ouvert. Là. Il est dans sa le CD, là. Non, il est dans sa pellicule plastique. Là. C'est comme, tu sais, comme les fanats de comics là, qui n'ouvrent jamais leurs comics ou leurs figurines. Moi, c'est comme non.
Ah oui. Non, je comprends.
Oui, ça a été comme... Puis c'est même pas pour qu'ils prennent la valeur, là, je sais pas. Je sais pas pourquoi.
Hey, on sait pas, là, on a parlé de la gentrification possible des îles, là, fait que peut-être dans 50 ans, là, ça va valoir la petite pièce, là.
Puis ton émission m'aide vraiment beaucoup à faire monter la valeur, parce que tout le monde le cherche, là, les îles de Géraldine, maintenant, pop-up, là.
Oui, et voilà. Non, c'est ça, ici, on génère de la valeur capitaliste à Zin Tonic.
Exact. Oui, bien, c'est IBL, c'est la radio commercial de Montréal.
Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on est au centre-ville. On a un œil sur tout.
Oui, c'est ça. À Place des Arts.
Alors, on a encore le temps pour des petits coups de cœur, si jamais. Oui, tu voulais compléter avec le tout petit que tu as trouvé.
Oui, c'est la loi de la balconnière. En fait, il y en a plein que j'aurais amené de la balconnière. Je les ai tous parce que la balconnière, malheureusement, c'est une... Là, eux, c'était vraiment... Fontaine, on dit, tu sais, micro-édition, mais pas tout à fait, parce qu'on publiait quand même pas mal de livres, dépendamment des années, mais tu sais, jusqu'à 4-5 livres par année, dans un quand même bon tirage. Eux, c'était vraiment une micro-maison d'édition, c'était une volonté des petits tirages, un livre zine par année. C'était, Laurence Veilleux, Guillaume Dufour-Morin et, j'ai un blanc. Alexandre Bichot. Voilà. Laurence, donc, comme je disais et que j'ai réussi du premier coup, c'était Laurence Veilleux, Guillaume Dufour-Morin et Alexandre Bichot, qui étaient trois personnes qui habitaient ensemble et qui faisaient, c'est ça, de l'édition indépendante avec la balconnière. Bon, j'ai amené la loi, que c'est comme leur dernière résidence qu'ils avaient faite un peu. Guillaume Dufour-Morin, c'était un performeur, il fait beaucoup de l'art performance, fait que c'était beaucoup là-dedans, qu'il avait fait au Théâtre du Bic avec Suzanne Valotard, qui était aussi une artiste de la performance, une artiste multidisciplinaire, mais qui, dans les dernières années, s'est surtout dirigée vers la performance, ce qui est très, très fort à Rimouski. En fait, il y a beaucoup d'artistes performeurs. Je pense que ça vient aussi avec la musique improvisée, là, le grill. Mais il avait fait aussi, là, je ne l'ai pas amené parce que là, c'était comme compliqué à amener, le manifeste Peanut, qui est un manifeste, comme un recueil zine avec un sac taqué après un sac de Peanut. Puis là, année après année, tu vois les Peanut.
C'est grainé, là.
C'est grainé, oui. Devenir de plus en plus brune, tu sais. Mais tu sais, c'est un peu comme les tranches de fromage.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est cette volonté-là. Puis je trouve ça vraiment fascinant. Puis à un moment donné, j'avais entendu Catherine Cormier-Larose en parler. Catherine Cormier-Larose, on dirait que pour moi, c'est comme c'est comme que Yvon Rivard est à l'essai québécois.
Comme... C'est dit.
C'est comme Catherine Cormier-Larose et le zine, là, t'sais. Et elle disait, elle est fortement allergique aux peanuts, tu sais, vraiment. Oui. Mais elle l'a, ce zine-là.
Et aux fruits de mer.
Et aux fruits de mer.
C'est dit.
Et donc, tu sais, pour elle, avoir ce zine-là dans sa bibliothèque est comme dangereux. Tu sais, c'est comme un mouvement manifestif en soi d'avoir ce zine-là. Fait que je voulais que je parle de la balconnière qui sont décédés
le collectif, là, pas les gens.
Pas les gens, non. Les gens vont très, très bien. Ouais. Et c'est aussi un recueil de 2016. Finalement, 2016, pour moi, était un bon cru au niveau des zines. C'est comme... c'est ça, c'est très 2016.
On s'ennuie beaucoup de 2016. On les salue.
C'est comme...
Mais oui, mais non, mais je me souviens que ça, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai découvert c'était quoi des zines, puis que j'ai commencé à fréquenter un peu ça, puis de m'émerveiller sur la possibilité que j'étais vraiment comme, oh my God, les affaires brochées que je faisais au secondaire 1, ça a un nom, finalement.
Ça. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ou, tu sais, comme quand j'avais 3 ans, puis que je faisais des livres pour m'amuser parce que j'aimais vraiment les livres, ben tu sais, ah, mais je faisais des zines. Avec mon nom en gros crayon de feu, tu sais, ce que ma nièce me donne, puis que c'est comme merci, je la mets dans ma boîte à zine.
Mais... faut commencer à quelque part, hein?
Oui, vraiment. Puis tant mieux. Puis en fait, c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très démocratique aux zines, là, tu sais, qui est important. Je dis pas, oui, tu sais, un enfant de 4 ans peut faire du zine, là, tu sais, c'est comme. Alors est-ce qu'un enfant de 4 ans peut faire un livre? Moins, tu sais, c'est que. Puis, il y a peut-être une réalité du nombre de pages aussi de cette façon-là qui vient chercher mon collectionneur. Tu sais, je sais pas comment le définir. Tu sais, l'écrou, il disait ça aussi, là, aller chercher toutes les couleurs de l'écrou. Tu sais, il jouait beaucoup sur ce rapport-là. Mais il y avait tout le même format, il y a tout ce rapport-là. Et le zine, c'est comme... Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Puis c'est pas le même rapport de lecture. À un moment donné, j'avais posé des questions autour de moi. Tu sais, qu'est-ce que le zine change par rapport au livre? Mais tu sais, c'est la liberté. Puis on est beaucoup moins dur. Tu sais, comme critique littéraire, tu sais, comme envers un zine, c'est comme un zine, c'est comme bon, c'était pas très bon, mais c'est comme un micro ouvert, tu sais, cette volonté-là. Tu sais, des fois, il y a des poèmes que j'entends dans des micros ouverts d'une personne que je respecte beaucoup, mais cette fois-là, bon, c'est un peu raté, ce poème-là, tu sais, c'est encore en travail, tu sais, c'est vraiment des laboratoires, des essais, des tentatives, puis...
Du rodage, comme un humoriste se plante aussi, là.
Ce que je trouve un peu dommage, puis c'est un peu plus vrai, puis c'était le cas quand je suis allé à Saint-Simon, aux îles de Saint-Simon, je trouve que le prix... Bon, on vit dans un monde où les choses coûtent de plus en plus cher, le prix du papier coûte de plus en plus cher, mais je m'ennuie du temps où toutes les îles, c'est comme ton zine était 5$, puis « Yeah, il est un peu cher, ton zine!
Ouais. »
C'est moins en moins le cas. T'sais, là, je regarde, là, les petits, des fois, les prix sont là, 2$, 3$. C'est rare maintenant, les zines, à ce moment-là. Mais là, je comprends, il faut rémunérer les artistes. C'est beaucoup de temps à faire un zine. Je comprends
ça. Le papier,
matériel. On parlait... je dis « on », mais je n'étais pas là. J'étais là en train de vous écouter, mais vous parliez des papeteries qui ont fermé. Avant, c'était vraiment plus facile de trouver... Je pense que c'était Maudveilleux qui disait ça, que de trouver du papier de construction, c'était vraiment... On en trouvait partout des deals, des sondages, t'sais. Moi, avant, quand j'ai fondé Fontaine, c'était ça. Des fois, j'avais rien à faire, j'allais me promener chez GGC. Juste dans la section papeterie, puis c'est comme, ça, c'est en spécial, je vais l'acheter, puis un jour, peut-être qu'on va faire un zine avec ça. Tu sais, c'est comme...
Là. Investir dans le futur.
Oui, c'est ça, exact. Il y a plein... Ouais, puis, tu sais, j'ai comme plein de cochonneries dans mon... dans mon locker. C'est comme, un jour, je ferai des zines avec ça.
Puis, vous n'avez pas de désir d'aller vers le numérique, ou est-ce que vous avez fait des trucs plus numériques, là?
C'est On a fait un truc numérique... qui s'appelait Slamé pour ce carré de Simon Robert, Simon Landry, qui était le gagnant de Slam Coupe du Monde 2018. On entend beaucoup David Goudreau a gagné, blablabla. Bla, bla. Simon, il avait ravi son titre après même pas un an. T'sais, comme, mais ça, on n'a pas beaucoup entendu parler. Parce qu'il a moins capitalisé sur ce rapport-là. Bref, avec ces textes-là, ce qu'on voulait, c'était vraiment une part d'oralité. Fait que ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on avait acheté à Musique Cité à Sherbrooke 50 CD, 50 vinyles, vraiment comme pas cher. On avait imprimé un gros collant, on a fait un cover, genre une séance de photo au terrain de golf du vieux nord de Sherbrooke. Puis on avait collé, puis sur le vinyle, on avait mis un code de téléchargement pour télécharger le livret numérique et les pistes audio. Fait que c'est le seul apport numérique qu'on a fait, puis c'était trop compliqué, finalement. C'est du niaisage, puis on n'a pas tant vendu que ça. Ben, de un vinyle, ça prend de la place dans les collectionneurs de poésie, là. C'est comme, des fois, c'est les mêmes, là, mais moi, j'ai pas de vinyle chez nous. J'en ai peut-être deux, mais ben des recueils de poésie. Fait que ça a plus ou moins marché. Je pense que la matérialité, nous autres, pour nous, c'est vraiment important. C'est sûr que ça coûte de plus en plus cher, fait qu'on sort de moins de livres. Faut dire aussi que maintenant qu'on est avec 10 médias, nos tirages ont vraiment augmenté, ont quadruplé. On fait des 450 tirages, alors qu'avant, on en faisait 100, 120. Fait que c'est ça, tu sais, cette réalité-là fait en sorte qu'on ne peut plus faire autant de couleurs qu'avant. C'est ça.
Voilà. Mais c'est ça, vous allez continuer quand même sur votre belle voie, puis continuer à sortir des titres.
Ouais.
Donc, ben merci beaucoup, Anthony, d'être venu, parce que c'était tout le temps qu'on avait, mais c'était très instructif. Puis donc, c'est ça, c'est Fontaine.
Oui.
Qui est basé maintenant au bain...
au bain public.
au Bas-Saint-Laurent. Mais oui, on s'est parlé ici à CIBL. Et puis, c'est ça, c'est ce qui conclut l'émission aujourd'hui. Aller visiter leur catalogue, aller prendre connaissance de leurs nouveautés.
Fontaine.ca.
Puis, merci à CIBL de nous accueillir sur leur plage horaire. Merci à Wilfred Enzoa de la mise en onde. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on se laisse sur la chanson « Air de plastique » de Bon Enfant.
dans mon heure de plastique.